Bien, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans Ésaïe chapitre 27 pour le message du jour. Ésaïe chapitre 27, et j'ai intitulé ce message « Le royaume de Dieu ordonné et sûr ». Nous savons que tout se déroule selon le décret de Dieu dans l'histoire, et d'ailleurs l'histoire, c'est l'histoire que Dieu lui-même a ordonnée. Surtout, nous sommes en train de lire ce qu'il a donné à Ésaïe à prophétiser de son jour concernant les jugements qu'il allait mener non seulement contre le pays d'Israël et Juda, mais toutes les nations à l'alentour. Et c'est parce que Dieu est souverain en toutes choses. Et tout se déroule selon sa souveraineté. C'est pourquoi le titre, le royaume de Dieu ordonné et sûr. Il n'y a rien qui se passe au hasard. Ça, nous pouvons être certains. Et dans ce chapitre, Dieu rappelle à Israël le pourquoi qu'il préserve ce pays. Ce n'était pas à cause d'eux, mais c'est à cause de ce que Dieu avait ordonné concernant son fils, parce que son fils devait venir de cette postérité. Et ainsi, Dieu allait accomplir ce qu'il a ordonné même avant la création du monde. Donc, nous lisons ici dans le premier verset, Ésaïe 27, « En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Donc, nous voyons premièrement ici, en ce que Dieu a ordonné, qu'il allait détruire ou bien vaincre ce qui est appelé ici le Léviathan. Léviathan. En ce jour-là, quand il parle de cela, ça démontre déjà que c'est Dieu qui ordonne les temps et les jours. Donc, quand il dit « en ce jour-là », cela nous ramène à Ésaïe 24 jusqu'à 27, les chapitres précédents que nous sommes en train d'étudier, où Dieu est en train d'exercer ses jugements sur le pays et les nations. Mais cela a en vue le triomphe final, si vous voulez, et victorieux et règne du Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait venir dans le monde. Et ici, il dit, « L'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. » Ça nous montre la source de tout jugement, c'est l'épée de l'Éternel. Et nous savons que ses jugements sont sévères. Et son épée est décrite ici comme grande et forte. Pourquoi? Pour punir Léviathan, ici appelé le serpent fuyant. Et donc, cela, quand ça parle ici du Léviathan, c'est une image de Satan lui-même. Nous ne savons pas exactement de quel genre d'espèce de reptile que cela était. Seulement, il semble que c'était un serpent qui était très grand et qui vivait, comme c'est écrit ici, dans la mer. où Dieu a dit dans le premier verset, il tuera le monstre qui est dans la mer. Je crois que cela se réfère quand ça parle du serpent, tortueux, serpent, fuyard. C'est une image de Satan lui-même. Et nous savons que depuis la chute d'Adam, que c'est Satan qui agissait dès le début pour essayer de détourner l'œuvre de Dieu, commençant d'abord par Adam et Ève. Mais dans Genèse chapitre 3 et le verset 15, nous avons déjà, depuis la chute, cette promesse où Dieu a dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, dès la chute, Dieu avait déjà promis un temps où il allait mettre fin à ce serpent et à sa postérité, que celui qui devait venir de la postérité de la femme devait écraser la tête de ce serpent. Et nous savons que cela s'est passé effectivement lorsque Christ est venu dans le monde, au premier siècle, et surtout l'auteur aux Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 2, et le verset 14 et 15, c'est là que nous voyons cette promesse accomplie dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans Hébreux 2, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que quoi? Par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Donc, je crois ici dans Ésaïe, chapitre 27, ce premier verset fait référence à ce triomphe final de Christ lorsqu'il serait venu dans le monde. Donc, c'est une promesse qui est donnée au milieu de ces jugements. Et Dieu, encore, qui ordonne toutes choses, c'est lui qui règne. Il donne cette promesse au reste d'Israël, qu'il n'allait pas complètement anéantir cette race, mais celui qu'il devait anéantir, en effet, c'est décrit ici comme le Léviathan, c'est-à-dire Satan lui-même. Le terme qu'il utilise ici concernant le Léviathan, peut-être pour nous, ce n'est pas un terme très connu, mais dans les histoires anciennes des nations proches d'Israël, ce langage est utilisé dans la mythologie. Et donc, Dieu se sert de ce que ceux de ce jour-là comprenaient comme représentant le mal, représentant même des nations féroces que Dieu décrit et démontre que toute opposition à sa volonté sera en effet anéantie. Donc c'est pourquoi le Léviathan, ce serpent tordu, ce que nous savons de cela dans cette description, c'est que ça représente ce qui est tordu. Cela veut dire le péché. Et nous savons que dans d'autres parties des passages de l'Écriture, le Léviathan est mentionné, comme par exemple dans Job chapitre 3 et le verset 8. Je n'ai pas cité tous ces passages, Vous pouvez vous-même prendre votre concordance et chercher ce mot et les versets, le contexte dont ce Léviathan est mentionné, Job chapitre 3 et le verset 8. C'est les plaintes de Job ici, mais il dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Donc déjà, c'est une description de ce qui provoque le mal. Et c'est en train de nous montrer, parce que quand nous voyons ce monde que Dieu a créé, mais le mal y est entré, mais cela n'a pas détrôné Dieu, et cela n'a pas surpris Dieu. Dieu se sert de toutes choses pour sa gloire. Et même quelle que soit la puissance de Satan à travers l'histoire, jusqu'à dans la tentation de Satan contre le Seigneur Jésus lui-même lorsqu'il est venu dans ce monde, mais rien n'a pu bouleverser l'ordre que Dieu a établi dans son royaume. Quand on parle du royaume de Dieu, cela veut dire que c'est Dieu qui règne, et même le diable, c'est le diable de Dieu. C'est Dieu qui est le maître même du Léviathan qui est mentionné ici. Et donc, pour cela, nous pouvons nous encourager que quelles que soient les tentations, quel que soit le mal qui existe dans le monde, même si Satan lui-même existe encore, ses jours sont limités, comme nous le savons, par exemple, dans Apocalypse, parce que nous savons la fin de l'histoire. Et dans Apocalypse, chapitre 20, et le verset 10, nous voyons la fin de Satan, qui est décrit ici. C'est écrit, et le diable, Apocalypse 20, 10, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étendue de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc voilà un rappel déjà ici dans Ésaïe 27, que quel que soit le trouble de ceux qui s'opposent au royaume de Dieu et surtout à ce que Dieu a ordonné au salut, que ceux-là finalement seront eux-mêmes détruits. Maintenant, passons au verset 2 à 6, toujours sur ce thème du royaume de Dieu ordonné sûrement et certainement. Ici, dans les versets 2 à 6, nous voyons que dans le royaume de Dieu, Israël sera préservé en vue de la venue de Christ. Ici, nous lisons en ce jour-là, « Chantez un cantique sur la vigne, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. » Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Donc l'image que nous avons ici, c'est d'Israël comme la vigne de Dieu, son jardin qu'il a planté. Et il est en train de rappeler aux enfants d'Israël la raison pour laquelle la nation existe même. Ce n'est pas à cause de ce qui est bien en Israël, non. Il n'y a pas de justice dans l'homme, mais c'est Dieu qui est le gardien et qui arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour. Il dit, je la garde. Et nous pouvons certainement dire la même chose de nous-mêmes concernant notre état en Jésus-Christ, que c'est Dieu qui nous préserve. C'est lui qui nous a plantés en lui et c'est par sa grâce que nous sommes préservés. Mais il continue, il n'y a point en moi de colère. Donc Dieu est en train de viser ici ses élus dans ce pays. Et quoi qu'il a bouleversé le pays, ou bien il allait bouleverser, parce qu'ici, au temps d'Ésaïe, c'est encore dans l'avenir, la destruction de Jérusalem et du temple. Mais il dit, ce n'est pas à cause de sa colère contre ceux qu'il a ordonnés au salut. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et les rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Donc voilà la promesse de préserver la nation d'Israël, et encore selon l'ordre sûr de Dieu. David, lorsqu'il contemplait cette promesse que Dieu avait faite avec lui, de susciter de sa postérité celui qui allait s'asseoir sur le trône, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, dans 2 Samuel, chapitre 23 et verset 5, il a dit ainsi, « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi, quoi, une alliance éternelle, voilà, ordonnée et sûre, et en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. » Ne fera-t-il pas jumer tout mon salut et tous mes désirs? Même si David n'a pas vécu assez longtemps pour voir la réalisation de cette promesse, parce que il y avait plus de 500 ans qui se sont écoulés entre ce moment où Dieu a fait cette promesse à David et la venue de Christ dans le monde. Mais néanmoins, David savait que Dieu allait accomplir ce qu'il a promis. Voilà sur quoi dépend notre salut. Ce n'est pas sur nous, ou bien nos œuvres, ou ce que nous faisons, mais c'est sur la fidélité de Dieu lui-même. Donc, s'il a promis ici, dans ces versets, la restauration d'Israël après ce temps de jugement, c'était en vue de la venue de son fils qui allait venir de cette postérité. Dans Romains chapitre 9, et c'est ainsi que les Juifs étaient fiers de leur histoire, de leur origine, pensant que Dieu les a favorisés à cause de leur race. Mais ici, Paul dit clairement dans Romains chapitre 9, Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle Dieu accomplit ses promesses envers Israël. Notons, commençons dans le premier verset, Romains chapitre 9, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, quoi, selon la chair. » Paul est en train d'avouer qu'il y avait un temps que lui-même, il aurait voulu être condamné avec les Juifs dans leur incrédulité que de s'identifier avec Christ. Telle était sa position lorsque il était dans sa religion, mais lorsqu'il a plu à Dieu de révéler Christ en lui, tout a changé. Et donc sa prière est pour ses autres frères, que selon la volonté de Dieu, Dieu fasse son œuvre en ceux qui sont des élus comme lui. Et il leur dit, il dit d'eux dans le verset 4, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et des alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc on ne doit pas poser des questions, bien spéculer. Pourquoi Dieu a préservé la nation d'Israël? Ce n'est pas à cause de quelque chose en eux, mais c'est puisque Dieu, encore, selon sa volonté, a ordonné à ce que son fils Christ vienne de cette lignée, cette postérité. Donc ici, le vignoble dont il parle ici comme un jardin qu'il arrose à chaque instant, ça représente Israël et ce peuple que Dieu a promis préserver jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ainsi que nous voyons encore le royaume de Dieu ordonné en toutes choses et sûr. Maintenant, dans les versets 7 à 9, nous continuons à parcourir ce chapitre ici. Nous voyons alors pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, a ordonné à ce qu'Israël reçoive miséricorde. Il dit l'Éternel, verset 7, l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil. Cela nous montre que Dieu, en apportant ses jugements contre Israël à cette époque, ce n'était pas en vue de détruire cette nation comme il avait détruit les autres qui étaient tout autour. Mais vous voyez, dans le verset 8, il utilise le mot châtié. Ceux que Dieu aime, il châtie. C'est ce que nous faisons avec nos enfants. Ce n'est pas parce que nous voulons les détruire, non. Mais nous voulons les corriger. Et ça, c'est le sens de ce mot « châtier ». Mais notons dans le verset 8 encore, c'est avec mesure. Dieu sait ce qu'il fait. C'est comme pour nous aujourd'hui qui sommes ses enfants. Bien sûr, il nous éprouve. Et bien sûr, il nous châtie par ses épreuves. Mais c'est pour notre bien, parce que nous sommes des pécheurs, comme tout autre. Mais puisque Christ a déjà payé notre dette, ce n'est pas dans sa colère qu'il agit, mais c'est dans son amour. Ceux qu'il aime, il châtie ceux qui sont ses enfants. Donc c'est ainsi que nous voyons dans l'ordre de Dieu, dans son royaume, ce qu'il a ordonné. C'est toujours dans sa miséricorde qu'il agit envers ceux qui lui appartiennent. C'est écrit en l'apportant par le souffle, verset 8, impétueux du vent d'Orient, ainsi le crime de Jacob, quoi, a été expié. Nous voyons ici que tous ces châtiments que Dieu a menés contre le fils de Jacob. Jacob représente ici les élus de Dieu. C'est pour que leur péché soit expié. C'est en vue de l'œuvre de Christ encore, parce que c'est seulement dans l'œuvre de Christ que les péchés sont expiés. Mais il dit, et voici le fruit de quoi? Du pardon de ses péchés. Là encore, lorsque Dieu nous châtie, c'est à cause du fait que nos péchés ont été déjà pardonnés par le sang de Christ, déjà expiés. Et donc, l'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière, et les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. Donc, dans ce passage, encore, nous voyons comment Dieu a frappé Israël comme a frappé ceux qui l'ont frappé. L'Éternel montre ici sa miséricorde envers Israël tout en menant ses jugements contre les autels qu'ils avaient bâtis à côté du temple. Et pour cela, Dieu devait les châtier et détruire ainsi ces autels. Dieu n'aura pas de rival. Il y a une seule gloire qui est la gloire de Dieu, et ça, c'est la gloire de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et aucun autre sacrifice ne peut satisfaire à sa gloire, si ce n'est le sacrifice de Christ, que les sacrifices de l'Ancien Testament représentaient, le système sacerdotal. C'était une image de ce que Christ devait accomplir lorsqu'il serait venu. C'est pourquoi il dit ici qu'il allait transformer toute autre pierre et autel, allait réduire ça en poussière, comme c'est écrit là, en fait, en des pierres de chaux. Quand ça parle des idoles d'Astarté, ça c'était une déesse qui représentait la fertilité que les païens tout autour d'Israël adoraient. Et ils avaient assimilé ces pratiques dans leur pratique de sacrifice que Dieu a ordonné. Mais Dieu ne peut pas avoir les deux. Non, les sacrifices que Dieu avait ordonnés représentent son Fils et sa personne et sa mort qu'il devait accomplir lorsqu'il serait venu. Donc, on ne peut pas avoir cette façon mixte, soit d'adorer Dieu d'une manière et puis d'adopter les pratiques de ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous séparons dans nos lieux de culte. Nous n'allons pas nous joindre à n'importe qui pour appeler ça l'adoration, mais nous devons adorer Dieu de la manière que lui-même il a ordonné. Mais en ce qu'il a ordonné, c'est pourquoi il a amené ses fléaux, il a amené ses jugements, c'était pour balayer, si vous voulez, le pays, et en fait de rétablir le peuple sur la véritable adoration qui est à travers le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et puis, dans les versets 10 et 11, nous voyons que Dieu et son royaume ne concernent pas simplement le pays d'Israël, mais ça concerne toutes les nations qui sont soumises à lui. C'est écrit dans le verset 10, « Car la ville forte et solitaire, c'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert, la pâture, le veau, il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise, des femmes viennent pour les brûler. » C'était un peuple sans intelligence. Aussi, celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui. Celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. Ici, la ville fortifiée sera désolée. Cela représente tout ce que l'homme construit, l'homme bâtit. Et il n'y a qu'une seule conclusion. Ça représente le système mondial, ça représente aussi le système religieux qui sera rendu désolé par le jugement de l'Éternel. Il n'y a aucun espoir dans ce que l'homme bâtit. Et voilà ce que la ville désolée représente ici. La ville désolée que Dieu doit juger représente tout ce que l'homme fait de ses propres mains. Et l'habitation, lorsque Dieu juge, représente une habitation ici abandonnée et laissée comme un désert. C'est pourquoi c'est remarqué là que même les veaux devaient venir et brouter les branches. Et quand les rameaux sèchent, on les brise, des femmes viennent pour les brûler. Cela veut dire qu'il ne devait rien rester de valable lorsque Dieu a fini avec ses jugements. Et c'est en effet ce qui s'est passé lorsqu'il a porté ses jugements contre la ville de Jérusalem et contre le temple. Bien sûr, c'est Dieu qui a institué cette ville au départ et le temple, mais puisque l'homme a rendu tout cela dans la pourriture et la souillure par ses œuvres, alors Dieu l'a complètement détruit. C'est ainsi que Dieu démontre son jugement, son terrible jugement contre toute œuvre de l'homme et représenté ici contre la cité de l'homme, contre le système mondial, contre le système religieux. Si nous voulons la faveur de Dieu, ça ne serait pas en ce que l'homme bâtit, mais c'est en ce que Dieu a établi dans la personne de son Fils et son royaume qui est bâti sur ce fondement. Il n'y a qu'un seul fondement qui est posé, c'est le fondement de Christ. Tout autre sera complètement détruit. Et puis, pour terminer dans les versets 12 et 13, c'est ainsi que nous voyons dans le royaume de Dieu, sous son règne, voilà ce que nous sommes en train de voir, ordonné et sûr, c'est qu'il y a une œuvre qu'il a promis, béni pour toujours. Et cela représente non pas la ville de Jérusalem physique, mais une ville spirituelle que Dieu est venu, Christ est venu établir dans le verset 12. En ce temps-là, l'Éternel secouera des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un en un, enfants d'Israël. Vous voyez ça, l'image, ramassés un en un, ce sont les objets de sa grâce. Bien sûr, il allait secouer cette ville et ce pays et disperser les habitants, mais c'était afin de ramasser un en un ceux qui lui appartenaient, ceux qui étaient qui sont du véritable Israël. Et encore, quand ça dit « En ce jour-là, on sonnera de la grande trompette. » Qu'est-ce que cette grande trompette représente, si ce n'est l'annonce de l'Évangile, que Christ est venu et il a donné sa vie afin de satisfaire un Dieu juste et à cause de son œuvre, Dieu maintenant est juste tout en justifiant chacun pour qui Christ est mort. Et ce peuple n'est pas représenté seulement par ceux d'Israël, comme nous lisons ici, en ce jour-là, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie. aux fugitifs du pays d'Égypte, au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Quand est-ce que cela s'est passé? Cela s'est passé le jour de Pentecôte. Quand vous voyez dans Actes chapitre 2, ça c'est après la mort de Christ et après qu'il est monté au ciel et qu'il a envoyé son esprit maintenant sur ceux qui étaient rassemblés à Jérusalem et qui étaient là ce jour-là. Quand vous voyez dans Actes chapitre 2, ils étaient étonnés d'entendre ces Galiléens, c'est-à-dire les apôtres, en train de parler dans des langues de ces autres pays d'où ceux-là sont venus. Ils étaient en exil, mais ils sont venus à Jérusalem pour les fêtes. Et ceux-là ont entendu, comme c'est écrit dans le verset 8, « Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Voilà le parler en langue. Ce n'est pas de dire n'importe quoi. Mais Dieu a donné à ses apôtres cette capacité de communiquer l'évangile. Voilà la trompette qui était sonnée. On sonnera de la grande trompette et alors reviendront ceux qui étaient exilés. Et voyez les différents pays qui sont mentionnés dans le verset 9. Et qui suit, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues? Des merveilles de Dieu. Voilà le moment où tout cela s'est réalisé, prophétisé déjà par Ésaïe quelques 500 ans avant que cela n'arrive, mais en ce jour-là. Comment est-ce qu'Ésaïe a pu prophétiser cela? C'est parce que Dieu est le Dieu souverain et il ordonne toutes choses, tout se passe selon ce qu'il a ordonné. Et il sait ce qu'il a choisi. Et donc, c'est ceux-là qui devaient venir, comme il dit, sur la montagne sainte à Jérusalem, pour adorer Christ. Voilà le véritable sacrifice. C'est de ça que Paul aussi a écrit aux Galates, dans Galates chapitre 4. Aujourd'hui, beaucoup sont intéressés par les Juifs, les descendants naturels d'Abraham. Non, ce qui compte, c'est le véritable Israël, les descendants spirituels d'Abraham et la Jérusalem céleste, non pas terrestre, mais céleste. Ici, dans Galates chapitre 4 et le verset 25, il parle dans le verset 24. Les choses sont allégoriques. Ça parle des deux femmes d'Abraham qu'il avait. On remonte jusqu'au verset 22, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, ça représente les Juifs selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Voilà la postérité spirituelle pour qui Christ est venu. Et il dit, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, notons, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais, et voilà ce que je crois Ésaïe prophétisait quand il a dit que des gens de tous ces pays devaient venir se prosterner devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Ici, il dit, verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfante point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes quoi? Enfants de la promesse. Oh, quelle belle histoire, quelle belle prophétie que nous avons ici donnée par Isaïe de l'œuvre de Dieu et comment il allait préserver un reste. Établi son véritable royaume, ordonné et su sur l'œuvre de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà ce qui est toute notre assurance et toute notre sécurité dans le salut. Amen.